Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous voulons ouvrir la parole de notre Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Nous voulons parler aujourd'hui du commandement nouveau que le Seigneur a appelé ainsi. Jean, chapitre 13, c'est un texte qu'on a lu déjà il n'y a pas si longtemps, mais qui mérite un approfondissement et un élargissement, tellement il est important. En tout cas, la vérité qu'il contient, tellement elle est importante pour le Seigneur et pour nous. Donc, je lis Jean 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds !» Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Alors, je vais continuer un peu plus loin, mais dans la suite, il est question de Judas, qui à ce moment-là ne va plus supporter ce qui est en train de lui arriver, c'est-à-dire que Jésus a aussi lavé les pieds de Judas, souvenez-vous, hein. Tout en sachant très bien ce qu'il en était. Et Judas, dans son cœur, savait aussi très bien ce qu'il en était. Et donc, ça va être le moment où Judas va s'en aller. Il va trahir Jésus. Satan va entrer en lui. Donc, c'est très clair que, malheureusement, ça va se passer comme ça. Et nous passons au verset 31 maintenant. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. » Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, amen. Je relis ce verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, amen. Voilà. Alors, c'est à partir du début de ce chapitre 13 que Jésus va essentiellement donner à ses disciples son enseignement sur l'amour. Vous savez, quand Jésus enseigne, ce n'est pas de la théorie, c'est toujours de la pratique qui l'accompagne, et là même qui précède. Parce qu'il commence par un exemple pratique, il commence par le lavement des pieds à ses disciples. Ensuite, il leur parle, comme nous venons de le lire, de ce commandement nouveau, versets 34 et 35. Et ensuite, dans la suite, il va leur parler aussi du lien qu'il y a entre l'obéissance et l'amour. Donc ça, c'est dans le chapitre suivant, le chapitre 14. Je lis simplement ces versets. Au verset 15, il dit par exemple, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc obéissez. Verset 21 de ce même chapitre 14, il dit, « celui qui garde mes commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Voilà, et c'est très, très lié, hein, on le voit. Versets 23 et 24, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Vous voyez le lien qu'il y a entre d'obéir, de garder la parole de Dieu, et d'aimer le Seigneur. Et enfin, le verset 28, sur ce sujet aussi. Donc, si vous m'aimez, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Voilà. Donc, nous discernons cet attachement qu'il y a entre l'amour et l'obéissance. Dans le chapitre suivant encore, chapitre 15 maintenant, là nous faisons un petit survol hein, pour voir la stratégie du Seigneur, il parle du cep et des sarments. Et il dit, voilà, je suis le cep, vous êtes les sarments, sans moi vous ne pouvez rien faire, hein, donc il résume cela. Et quand la question se pose, parce que les sarments sont destinés à porter du fruit, de quel genre de fruit s'agit-il? Eh bien juste après le cep, après la parabole du cep et des sarments, vous avez le verset 9 qui nous parle, là encore, de l'amour. Donc ça veut dire que le fruit apporté, c'est bien celui de l'amour. Hein. Donc si on est des sarments qui sont rattachés au cep. Verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans mon amour. » Et il continue encore au verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà, ça c'est dans ce passage du chapitre 15. Après vous avez le chapitre 16 de l'évangile de Jean où le Seigneur parle de sa mort et de sa résurrection. Et au chapitre 17, il va revenir... Donc, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, ce chapitre 17, il va revenir sur cette unité qui n'est possible que sur la base de l'amour vrai. Hein. C'est pour ça que dans le verset 17, je ne vais pas vous tout vous lire, mais juste nous lisons le verset 20 au verset 23, un passage qui a été beaucoup utilisé dans les mouvements œcuméniques, mais un petit peu à tort et à travers malheureusement. Donc nous lisons, le Seigneur dit au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, j'ouvre un peu la parenthèse là, hein, quelques remarques au sujet de l'œcuménisme et de la façon dont ils ont dévoyé quelque part ce texte trop souvent. Hein, c'est-à-dire que déjà ils ont tiré du contexte, ils ont tiré ce passage-là de son contexte, ils ont parlé de l'unité de l'Église universelle alors que ça passe déjà par l'Église locale, en tout cas pour Jésus déjà ça passe par ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont avec nous. Vous savez, quelqu'un disait, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer réellement un frère qui est au loin et qu'il ne voit pas? Hein, c'est une évidence. Hein, donc là aussi, on s'illusionne trop souvent sur ce point. Et puis, ils ont aussi oublié l'insistance que Jésus met sur l'obéissance. Hein, l'obéissance, le fait de garder les commandements de Jésus dans tout le contexte. Il n'y a pas d'unité possible si on n'a pas cette même obéissance, si on n'a pas. Et puis, ils ont oublié aussi la primauté de la vérité, sur laquelle l'accent est mis aussi de manière très forte dans notre texte. Hein. On ne peut pas être uni si on croit à des choses différentes, contradictoires, opposées, ce n'est pas possible. Hein. Enfin, bon, je ferme la parenthèse pour l'instant, parce que notre propos, ce n'est pas celui-là. Revenons-en à notre texte de départ, donc chapitre 13, versets 34 et 35, et considérons deux grandes choses Dieu voulant, développer, donc dans la suite de notre prédication. Déjà, en premier, réaliser combien ce passage est crucial et combien il est extraordinaire. Et puis ensuite, Notre deuxième grand point, c'est qu'il ne s'agit pas d'un chemin de facilité, mais que ça vaut vraiment la peine de s'y engager et d'y poursuivre. Voilà. Donc, en premier, ce passage est très important, il est crucial, il est extraordinaire, et il l'est pour plusieurs raisons que nous pourrons voir ensemble. 7 raisons au moins. Hein. Donc, déjà, en premier, parce que maintenant, c'est le grand point dont Jésus va s'occuper quand il sait que son heure est venue. Jusque-là, régulièrement, quand vous lisiez l'évangile de Jean, eh bien, il disait que son heure n'était pas encore venue. Je vous cite juste les références où il le dit. Dans le chapitre 2 au verset 4, au chapitre 7 au verset 6, au verset 8 du même chapitre, puis au verset 30, au chapitre 8 au verset 20, au chapitre 11 verset 9. Chaque fois, il dit « mon heure n'est pas encore venue, mon heure n'est pas encore venue », etc. Mais voilà que Jésus dit « maintenant, mon heure est venue hein, ». Ça commence déjà au chapitre précédent, chapitre 12, verset 23, là, il annonce sa crucifixion à ses disciples, et puis il réitère ça au verset 28 de ce chapitre 12. Et voilà donc au début du chapitre 13, que je relis, cela est proclamé avec force. « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Amen. Donc, Jésus va se tourner maintenant vers sa dernière grande œuvre, son dernier grand effort pour ses disciples avant la crucifixion. Et c'est quoi cela? Eh bien, c'est de mettre le comble à son amour pour eux et de leur enseigner, d'abord d'une façon pratique très frappante, c'est-à-dire par le lavement de pieds, puis par sa parole, la réalité, la nécessité de cette forme d'amour fraternel. Et ainsi voyons-nous l'importance de cette question pour Jésus par le déroulement des événements qui y conduisent. Ensuite, une deuxième raison, ce passage est absolument important parce qu'il est le premier où il y a une telle concentration du mot « amour » dans cet évangile. Hein. Vous en avez d'autres après, chapitre 14, versets 21 à 24, par exemple, avec le fait de garder les commandements, de garder la parole, celui qui m'aime, etc. On l'a lu un petit peu, je ne vais pas revenir dessus. Vous avez un autre endroit où ce mot se retrouve souvent, c'est, nous l'avons dit, juste après la parabole du 7 des sarments, pour bien interpréter et comprendre cette parabole, du verset 9 au verset 13, du chapitre 15. Mais notre texte se place là en introduction et il pose les jalons de base qui vont être confirmés et approfondis ensuite par les suivants. Et puis une troisième raison, ce passage est très important aussi parce qu'il appelle les disciples « mes petits-enfants ». On l'a vu au verset 33, hein. C'est la première fois qu'il le fait et c'est la seule de tout l'évangile de Jean. Et pour ceux qui connaissent tant soit peu la Bible et qui connaissent les écrits de l'apôtre Jean, il n'est pas possible de ne pas faire le rapprochement avec les épîtres de Jean, hein, qu'on trouve donc juste avant l'Apocalypse. Donc, et là, vous avez cette expression « mes petits-enfants » qui revient souvent sous la plume de l'apôtre avec beaucoup d'amour. Hein. En tout cas, ici, c'est la première fois. Puis une quatrième raison encore pour laquelle c'est important, c'est-à-dire que ça nous amène donc à donner une autre raison de l'importance de ces versets, c'est que nous avons là déjà le message central des épîtres de Jean. Hein. Donc il est présenté et les épîtres de Jean vont être un prolongement et un développement de ce passage-là. Donc, et ça nous amène à un cinquième point encore, c'est que ce passage fait partie de ces éléments qu'on ne trouve que dans l'évangile de Jean et qu'on ne trouve pas dans les trois autres évangiles. L'évangile de Matthieu, Marc et Luc, voilà, vous ne trouvez pas ça. Et ça aussi, c'est particulièrement important. Il faut qu'on s'explique. Hein. Les trois premiers évangiles ont été écrits relativement peu de temps après les événements qu'ils rapportent. Hein, quelques années, quelques dizaines d'années, peu de dizaines d'années, tout au plus, hein. C'est pourquoi il y a beaucoup de matériaux communs entre eux, entre ces trois évangiles, beaucoup de ressemblances, un tronc commun très important, on les appelle ces trois évangiles les synoptiques. Donc, mais l'évangile de Jean, tout en ayant des points communs avec les trois autres, et puis bien sûr aucune contradiction, malgré tout il s'en détache, il se différencie des trois premiers. Pourquoi ? Parce qu'il ne parle pas de certains sujets et de certains événements qu'on trouve, je dirais, en commun dans les trois autres. Par contre, il va aborder d'autres enseignements, d'autres œuvres de Jésus qui ne sont pas rapportées par les trois précédents évangiles. Et pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Bien, il faut d'abord se rappeler que l'apôtre Jean a écrit son évangile, ses épîtres et son apocalypse bien après les autres évangélistes. Ils étaient même probablement tous décédés, les gens, quand il a écrit cela. Donc c'est tout à la fin du 1er siècle qu'il a écrit tout cela. Donc il a le recul du temps, à ce moment-là, il a le recul de l'expérience, le recul de l'âge, de son propre âge, donc il avait plus de 90 ans, de toute évidence, le recul de l'évolution des églises, de l'œuvre de Dieu, et je dirais aussi, bien sûr, le recul de sa propre croissance spirituelle, la croissance spirituelle personnelle, d'une pleine maturité spirituelle, on pourrait presque dire d'une apogée spirituelle. Donc voilà. En fait, c'est un peu comme s'il est au sommet d'une très haute montagne, une très haute montagne spirituelle, du haut de laquelle il peut discerner, rempli d'une inspiration divine, ce qui a été important dans le passé. Vous voyez, il peut faire le bilan, avec le secours de l'Esprit de Dieu, de ce qui a été important dans ce qui s'est passé. Vous savez, des fois, c'est important qu'on puisse s'arrêter et faire le bilan, parce que quand on a le nez dans le guidon, comme on dit, on ne réalise pas toujours ce qui est important, et c'est après qu'on voit les choses et leurs répercussions, et on se dit, à tel moment, il y avait quelque chose de vraiment important pour ma vie. Donc, lui, il regarde en arrière, et puis il voit ce qui a été vraiment important pour l'œuvre de Dieu. Il discerne aussi mieux ce qui est important dans le temps même où il vivait, dans son présent de ce moment-là, et puis aussi ce qui est important pour l'avenir des croyants, l'avenir de l'œuvre de Dieu, là, quand il se tourne de l'autre côté, quand il discerne ce qui vient, puis aussi il discerne en même temps ce qui est le plus important parmi toutes les vérités pour les disciples, pour le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que ce sont les miracles ? Est-ce que ce sont les dons spirituels ? Bien sûr, ces éléments sont très précieux, très nécessaires, très importants. Ils ont leur place, toute leur place dans l'œuvre de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Mais il nous fait bien comprendre que le plus important pour le peuple de Dieu, c'est cet amour dont il parle là. Cet amour comme il le définit là. Et ça aussi, c'est le plus important pour l'Église et pour l'évangélisation. Et en fait, lorsqu'il fonctionne de cette manière-là, lorsqu'il écrit son évangile, c'est la réalisation plénière d'un autre texte qu'on ne trouve que dans l'évangile de Jean, c'est-à-dire Jean 14, verset 26, lorsque ce que Jésus a annoncé, c'est lui le seul, Jean est le seul qui a rappelé cela de la part de Jésus. Jésus avait dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. » Et ainsi voyons-nous aussi pourquoi ce passage est si important. Une sixième raison de l'importance de ce passage, c'est qu'il se présente comme un commandement absolu. Et ça, c'est pour la première fois. D'ailleurs, ce commandement sera encore répété deux fois dans la suite, parce que vous regardez au chapitre 15, au verset 12. « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et puis aussi au chapitre 15, au verset 17, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et les épîtres de Jean vont emboîter le pas à cela et insister encore plus sur sa nécessité en montrant qu'il n'y a pas d'autre option à ce sujet, c'est absolument nécessaire à la foi et au salut. Et je vous relis, je vous rappelle simplement quelques extraits des épîtres. 1 Jean chapitre 2 verset 10, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » 1 Jean chapitre 3, verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » C'est pour ça qu'il faut qu'on considère bien qu'il n'y a aucun frère, aucune sœur que nous n'aimions pas. Que nous assurions que nous aimons bien chacune et chacun. Parce que c'est une preuve de notre véritable nouvelle naissance, notre véritable conversion. 1 Jean 3, verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Vous voyez là, l'amour est un devoir, le devoir de se donner, de se sacrifier chacune et chacun a ce devoir, sans aucune exception, ni d'âge, ni de capacité, ni de trop grande occupation. Si nous sommes vraiment nés de nouveau, nous réalisons et saisissons cela. Un peu plus loin, dans 1 Jean 3, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. » C'est vrai que nous avons souvent besoin d'être assurés, d'être rassurés en ce qui concerne l'approbation divine. Hein. Et cet amour réel mis en pratique, c'est quelque chose qui va fortement contribuer à cela. 1 Jean 3, verset 23. « Et c'est ici mon commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » Vous avez vu ? Commandement au début, commandement à la fin de ce passage. Il est répété au sujet de cette obligation d'amour chrétien, un peu, je dirais, comme si c'était un commandement au carré quelque part. Hein. Donc, nous avons une grande force dans cet ordre et à ma connaissance, il n'y a pas d'autre passage dans l'Écriture où un ordre est donné avec tant de force et tant d'empressement. 1 Jean 4, verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voyez-vous combien, là aussi, l'amour est lié à la réalité de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. 1 Jean 4, verset 20, maintenant. « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Et ainsi voyez-vous que l'amour, ce n'est pas avant tout un sentiment, ce n'est pas avant tout une inclination. L'amour, ce ne sont pas avant tout des atomes crochus, ce ne sont pas avant tout des intérêts communs, ce ne sont pas des caractères qui s'accordent. Avant tout, l'amour, c'est un commandement. C'est très clair dans ce passage. Et que ça plaise ou non, eh bien, c'est une question d'obéissance, hein, d'obéissance et de foi, hein, donc également. Et puis si j'avance encore dans 1 Jean chapitre 5 verset 2, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Et nous voici donc avec ce qui va nous aider à déterminer l'amour véritable selon Dieu. Hein, donc c'est, je dirais, c'est, voilà, c'est cette obéissance qui s'accompagne aussi, bien sûr, de vérité, parce que l'obéissance complète à la parole de Dieu, par amour pour lui, c'est la seule vraie base de l'amour pour les enfants de Dieu. Et maintenant, dans deuxième épître de Jean, verset 5, puisqu'il y a un seul chapitre, « Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimions les uns les autres, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » Et là encore, c'est quelque chose qui parle à ceux qui auraient tendance à peut-être contester les manifestations de l'amour qui ne correspondent pas à leur propre conception, à leurs propres idées, à travers de ce texte, de ces textes qui nous parlent de l'amour comme d'un commandement absolu. Nous voyons bien l'importance de notre passage de départ. Et puis enfin, une septième grande raison pour laquelle ce passage est important, c'est que Jésus en parle comme d'un commandement nouveau. Voilà, il leur dit en quelque sorte, ben jusqu'à présent vous avez eu les 10 commandements, hein, avec tous les préceptes, toutes les ordonnances qui s'y rattachent, toutes les règles, tous les décrets d'application, si vous parlez comme ça, qui en découlent. Mais voilà, aujourd'hui un grand jour se lève, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un 11e commandement qui transcende l'ensemble. Hein, ben alors, on peut se poser la question, mais est-ce que ce commandement est véritablement nouveau ? Je dirais que fondamentalement non, puisque par son essence, il est lié aux deux premiers commandements, surtout au deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, Jésus disait auparavant qu'il n'y avait pas de commandement qui soit plus grand que ces deux-là, et dans 2 Jean 5, qu'on a lu tout à l'heure, il a bien expliqué que aussi sous cet aspect-là, ce commandement n'est pas nouveau. Mais malgré tout, il est quand même fortement nouveau de plusieurs façons. Au moins 7 façons que nous pouvons voir. Déjà, il est nouveau par l'exemple que Jésus leur donne, cet exemple d'humilité, de service qu'il pose comme modèle. Et jamais ils n'auraient imaginé les disciples, jamais ils auraient pensé imaginer une chose pareille. Que Jésus s'abaisse à leur laver les pieds, jamais ce leur serait venu à l'esprit. Et lorsque Jésus met cela comme un exemple, comme un modèle, ça leur ouvre des horizons nouveaux, hein. Des horizons nouveaux en ce qui concerne le service et en ce qui concerne l'amour, hein. Ensuite, il est nouveau aussi ce commandement, parce que Jésus, juste après, qu'est-ce qu'il va faire ? Mais il va sacrifier sa vie pour eux. Il va leur montrer d'une manière bouleversante ce que veut dire donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ça aussi, ils ne l'imaginaient pas. Hein, ça aussi, ils n'imaginaient pas. Comme puisque Jésus va être crucifié juste après. Et ce commandement est nouveau encore pour une troisième raison. Parce que dans peu de jours, ils vont avoir l'occasion de le mettre en pratique dans un nouveau cadre qu'ils n'imaginent pas non plus. Qu'ils ne connaissent pas non plus. C'est le cadre de l'Église. La Pentecôte va bientôt se produire, donc, et là, c'est l'Église qui va apparaître, une entité nouvelle dont ils n'avaient aucune idée. Et c'est en ce cadre-là que l'amour va être tout spécialement manifesté. Et ce commandement est nouveau encore, parce qu'il leur faudra maintenant chercher en Christ la force et la capacité pour l'accomplir, parce qu'ils ne peuvent pas y arriver par leur propre force. Ne peut pas y parvenir par leur propre force. C'est pour ça que vous avez Jean 15 qui suit, hein, le cep et les sarments. Rappelez-vous, le Seigneur nous dit très clairement, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est le verset 4 et 5 de ce passage. Et le fruit, nous l'avons vu, qui suit donc juste après la parabole du cep et des sarments, c'est celui de l'amour. C'est ce fruit-là avant toute chose. Et puis ce commandement est un nouveau aussi, parce qu'il ne peut s'accomplir que par la plénitude du Saint-Esprit, ce qu'eux ne savaient pas, et ce qu'ils ne savent pas encore, mais qu'ils vont réaliser, hein, parce que la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité qui nous a été donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Et puis, rappelez-vous que l'apôtre Paul dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour en premier. Alors l'amour, la joie, la paix, etc. Mais on devrait même, si on voulait traduire vraiment exactement, il faudrait traduire le fruit de l'esprit, c'est l'amour, deux points, la joie, la paix, etc. En fait, c'est l'amour mêlé à tous les autres qui suivent. Ça, c'est, voilà, ça, c'est le sens exact de la traduction, si vous voulez l'avoir, hein. Donc, ça nous montre bien combien l'amour est primordial et combien il faut que ses disciples fassent cette expérience nouvelle dans la plénitude du Saint-Esprit. Et puis, en sixième, ce commandement est nouveau aussi par le témoignage qui est ainsi rendu aux inconvertis. Maintenant, les inconvertis vont voir que ceux qui s'aiment en Jésus-Christ sont les témoins de Jésus. Et que c'est ça qui va être la force première de leur témoignage. Et ça, il faut le rappeler. Alors c'est vrai que les miracles, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de précieux. Les exaucements de prières, c'est quelque chose de magnifique. Hein, le fait que les démons soient chassés, eh ben, c'est quelque chose à la gloire de Dieu. Le fait qu'il y ait des prodiges, je ne sais pas, des multiplications des pains ou d'autres choses, eh bien, ce sont toutes des choses magnifiques, des choses aussi que nous aspirons et souhaitons de voir. Mais ce qu'il y avait de nouveau maintenant, c'est que Jésus leur dit, vous avez un meilleur signe que tout cela pour que le monde reconnaisse que vous êtes de vrais croyants. Et ce meilleur signe, meilleur que les miracles, meilleur que tout, c'est l'amour que vous aurez entre vous. Il dit, voilà, ça c'est le meilleur signe. Ça c'est le meilleur moyen de témoignage auprès des inconvertis. Amen. Et puis une septième chose enfin, le commandement est nouveau à cause de son efficacité universelle, parce que le Seigneur dit, tous connaîtront, il n'y en a pas un qui pourra ignorer cela, si l'amour est manifesté, pas un n'y échappera, ça ne veut pas dire que tous seront forcément d'accord, mais tous seront obligés d'admettre de bonne foi ou de mauvaise grâce, mais de reconnaître que, eh bien, que vous êtes des disciples du Seigneur, et puis, dans le paquet, si j'ose dire, il y en a qui ne manqueront pas d'être touchés quand même. Hein, donc, voilà. Et ainsi, nous voyons que diverses façons, diverses manières, il s'agit véritablement d'un commandement nouveau. Voilà. Et ainsi, donc, arrivons-nous aussi au terme de notre grand premier chapitre pour mieux comprendre combien ce passage est crucial, combien il est extraordinaire. Mais il nous faut pénétrer maintenant dans la signification même de notre passage. Quel est donc cet amour dont il est parlé là ? Alors, nous avons dit, ce n'est pas forcément un chemin de facilité. C'est d'ailleurs pas de la faute du Seigneur si c'est pas un chemin de facilité. C'est parce que nous nous compliquons trop souvent la vie. Hein. C'est parce que trop souvent, c'est nous-mêmes qui compliquons les choses. Hein. Dieu a tracé un chemin droit, mais les hommes, ils cherchent beaucoup de détours. Voilà le problème, plutôt, hein, je dirais. Alors, voyez les difficultés que Jésus a rencontrées dans cette affaire. Hein. Donc, il a voulu laver les pieds de ses disciples. Et c'est certainement pas pour rien que Jésus aborde ce sujet en dernier dans son ministère, hein, son ministère terrestre, je veux dire. Juste à ce moment-là, lorsque vous regardez ce 13e chapitre, lorsque vous arrivez au 13e chapitre de l'évangile de Jean, sur 21 chapitres, c'est-à-dire la moitié est bien passée, bien vous remarquez que c'est seulement la 14e mention du mot « aimer » que vous trouvez là. Dans le chapitre 13, au verset 1er. Alors que dans tout l'évangile, vous en avez une soixantaine. Donc ça veut dire que l'essentiel à ce sujet, c'est plutôt vers la fin de l'évangile. Hein. C'est un peu comme si Jésus avait attendu le dernier moment pour en parler à ses disciples. Pourquoi ? Bah déjà, à cause de la difficulté de l'homme à appréhender la question de l'amour. Hein. Ça, c'est une façon générale dans l'humanité. Ensuite, en deuxième, à cause de la difficulté naturelle de l'homme à aimer selon Dieu. Et puis, il espérait qu'il serait le plus grandi spirituellement, le plus grandi possible spirituellement, je dirais, quelque part. Hein, par conséquent, qu'il pourrait le mieux possible comprendre, ou peut-être plus exactement le moins mal possible, je ne sais pas. Voilà, donc, en tout cas, c'est vrai que Jésus va se trouver devant des difficultés. Voilà que Pierre, déjà, commence par ne pas vouloir qu'il lui lave les pieds. Déjà, ça commence par là. Et ceci nous parle de la difficulté de beaucoup à se laisser aimer, vous savez. Il y a des gens, ils ont du mal à se laisser aimer. Hein. Ils ne veulent pas de l'amour, hein, même de l'amour de Jésus, et puis pas de celui des autres. Hein. Lorsqu'il est dit, dans 1 Jean 3, verset 1er, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Vous savez, des gens, ils se posent la question, mais est-ce que je mérite vraiment d'être aimé, hein? Et pour beaucoup d'entre eux, ben, cette question, ben, ça montre simplement qu'ils se considèrent comme sans grande valeur, vous avez cette peur d'être rejeté par les autres, hein. Alors cette peur d'être rejeté par les autres est si intense que ça peut produire différentes réactions, hein. Vous avez ceux qui vont décider de toujours garder leur distance vis-à-vis des autres, pour éviter toute souffrance future, hein. Et le problème c'est qu'en se refermant sur eux-mêmes, ben, ils perdent beaucoup de chances de tisser de vraies relations humaines. Hein. Et ensuite, vous avez ceux qui se fabriquent, qui s'inventent une carapace de dur à cuire, vous savez. Hein, donc ça aussi, ça existe. Et ils donnent l'impression autour d'eux qu'ils ont besoin de personne pour se débrouiller. Le problème, c'est que personne ne se rendra compte un jour si quand vous souffrirez réellement. Hein. Vous avez ceux aussi qui rejettent ouvertement tous ceux qui cherchent à s'approcher d'eux. Hein, peut-être qu'ils ont fait des expériences difficiles, c'est possible. Alors ils enfilent leur grande box là, et puis vas-y, hein, que je te lance des uppercuts là, sur la face du premier qui s'aventure près d'eux. Hein, donc, et puis vous avez aussi ceux qui essaient de s'acheter une protection contre le rejet, voyez-vous, de la part des autres, ben ça peut être, je ne sais pas, des flatteries, des faveurs envers tout le monde, en acceptant de passer un peu sous la coupe de n'importe qui, sous prétexte qu'ils ne méritent pas mieux, que c'est la seule façon d'être aimé. Ça aussi, c'est une chose qui existe. Hein. Et puis vous avez aussi ceux qui prétendent se réfugier dans le perfectionnisme, pour mériter le soutien divin, du moins c'est ce qu'ils pensent. Hein. Mais vous savez, Dieu a choisi de nous aimer sans poser la moindre condition. Heureusement qu'il nous aime en premier. Hein. Heureusement que c'est comme ça. Hein. Donc réfléchissez à ces paroles. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Voilà ce que dit l'apôtre dans la première épître. Et c'est pas fini, parce que lorsque Christ reviendra, eh bien, nous serons semblables à lui. Alléluia. Béni soit son nom. C'est vrai. Et si l'opinion que vous avez de vous-même n'est pas basée sur l'opinion de Dieu, eh bien, vous resterez toujours vulnérable à la critique, à l'amertume, mais même au jugement négatif de vous-même. Et vous verrez, et puis vous aurez toujours bien du mal à arriver à être ce que Dieu voudrait que vous soyez. Hein. Donc, Dieu voudrait que vous puissiez avoir ce bonheur, cette paix, ce bonheur et cette joie. Bon, j'en reviens à mon Pierre, donc il ne veut pas que Jésus lui lave les pieds. Ou alors, après, vous voyez qu'il change d'avis, et puis maintenant, voilà, là et maintenant, il voudrait que Jésus le lave de la façon qui lui plaît à lui, voyez-vous, de la façon qui lui convient à lui. Et vous savez, souvent, c'est comme ça. On voudrait être aimé. Je dis, le problème de l'amour, ce n'est pas un problème évident. Hein, parce qu'on voudrait être aimé de la façon qui nous plaît à nous. La façon qui nous convient, comme ça, sur le coup. Éventuellement, qui nous singularise. Et pas forcément la façon dont Jésus voudrait le faire. Et pourtant, c'est elle qui est la meilleure. Alors, nous, on a notre idée sur la question. Et si on ne nous aime pas de cette façon-là, alors on va dire, ben, il n'y a pas d'amour dans l'assemblée, ou bien, je ne sais pas, moi, ou le frère, la sœur, ou le pasteur, ou je ne sais pas, ne nous aime pas, ou qui nous aime moins que d'autres, je ne sais pas, voyez-vous. Voilà, le problème, c'est ça. Hein. Et puis, un autre problème qui se greffe dessus, c'est que ses disciples n'aiment pas Jésus comme ils devraient l'aimer. Hein. Chapitre 14, au verset 28, Jésus les met en cause, si vous m'aimiez, dit-il. Hein, donc, bon, je dirais qu'il n'est pas en cause d'une manière absolue, parce que malgré tout, il remet les choses en perspective au chapitre 16 et au verset 27, hein, que je vous lis quand même. Donc, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Voyez-vous ? Donc voilà. Donc il met les choses en perspective. Mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'ils ne voient que leur petit cadre. Voilà. Ils ne voient que leur petit environnement, ce qui les concerne, eux, présentement et essentiellement. Et ils ont du mal à élever les yeux de leur cœur. Hein, ils ne voient pas ce qui est tellement plus grand et plus réjouissant dans le Seigneur aussi. Hein. Ils voient leur position et ils ne cherchent pas à comprendre une autre position, en particulier la sienne. Vous savez, on croit souvent qu'on comprend l'amour, hein, et on a une compréhension qui peut être faussée. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que peut-être on focalise son attention, son affectivité dans certains domaines et pas dans d'autres. Pourtant, ce serait bien nécessaire. Hein. Peut-être qu'on est hypersensible dans certains domaines, sur certains points. Peut-être qu'on a un caractère possessif ou exclusif, ou bien peut-être qu'on est braqué sur soi-même, peut-être qu'on est sûr d'avoir raison, hein, ce qui concerne, et puis on ne sait pas vraiment, en fait, ou si peu, ce qu'est l'amour véritable. Peut-être qu'on est marqué par son passé, par ses expériences, vous voyez, tout n'est pas de la culpabilité, on est victime aussi de certaines choses, hein. On est jaloux, ou peut-être qu'on dit qu'il y a des préférences, etc., et on pourrait multiplier ainsi les choses et rechercher des quantités de raisons, mais vous savez, entre ceux qui ne savent pas donner l'amour, ceux qui ne savent pas l'accepter, ceux qui le refusent, ceux qui ne savent pas le discerner, ceux qui ont de fausses conceptions, il y a vraiment de quoi se faire du souci. On peut comprendre que Jésus ait abordé cela, je dirais, en dernier ressort. Hein. Pourtant, lui est-il marqué qu'il les aimait parfaitement, qu'il a mis le comble à son amour pour eux. Voyez l'incompréhension qu'il rencontre et qui aurait très bien pu se muer en refus. Mais heureusement, il y a aussi le moyen de la victoire de l'amour. Et ça commence par quoi, ça ? Ben, je dirais que ça commence par une prise de conscience. Ça commence par la prise de conscience de notre échec dans ce domaine-là, de notre insuffisance dans ce domaine-là. Il a fallu spécialement que Pierre le réalise. Hein. Dans le chapitre 21, ben c'est le moment là où Pierre le réalise, on va le lire. Chapitre 21, versets 15 à 17, là, vous avez juste ces trois versets dans lesquels nous avons un échange entre Jésus et Pierre, un échange public devant les autres disciples. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Voilà. En fait, bon, je ne vais pas entrer dans les nuances du grec, mais si on veut bien comprendre ce passage, il faut savoir que vous avez trois mots pour « aimer » dans le grec. Là, au français, vous n'avez qu'un, vous n'avez pas la nuance. En fait, Jésus, la question qu'il pose, « Est-ce que tu m'aimes d'un amour profond ?» De l'amour le plus profond. Et Pierre, honteux, surtout après la trahison qui s'est passée pour lui au moment de la crucifixion, il reconnaît qu'il aime, mais d'un amour d'affection seulement, d'un amour inférieur en qualité à la question que Jésus pose. Et voyez-vous la différence chez Pierre maintenant, par rapport à avant la crucifixion, Ah ben voilà ce qu'est crucifixion, si on l'avait écouté, personne n'aurait aimé Jésus plus que lui. Hein, il disait, voilà, je suis sûr que si tous les autres disciples t'abandonnent, Jésus, moi je ne t'abandonnerai pas. Vous voyez la fausse appréciation qu'il avait de son propre amour. Hein, et Jésus savait mieux. Hein. Et pour que Pierre maintenant puisse entrer dans le ministère, pour que Pierre puisse paître les brebis, qu'il puisse paître les agneaux du Seigneur, il faut qu'il prenne conscience de ça. Il faut qu'il prenne conscience de son manque, de son besoin. C'est la condition. Et c'est une des grandes raisons pour laquelle Jésus l'éprouve à ce moment-là. Et c'est ça aussi qu'il a aimé à vouloir changer. Parce que tant que vous n'admettez pas votre besoin, tant que vous ne le discernez pas, tant que vous n'êtes pas conscient de votre besoin, vous n'allez pas changer. Si vous êtes pris par l'alcool, par exemple, je ne sais pas moi, ou par quelque chose, tant que vous n'admettez pas que vous êtes alcoolique, vous ne pourrez pas être délivré. Le jour où vous l'admettez, je dirais, la plus grande partie du travail est faite, surtout si vous venez au Seigneur. À ce moment-là, le Seigneur vous délivre, parce que vous avez reconnu la chose, que vous avez reconnu votre besoin, que vous avez reconnu que vous devez changer, et ça, c'est valable pour tout le reste. Ça, c'est valable, je ne sais pas moi, pour la jalousie, c'est valable pour la colère, c'est valable pour l'amour de l'argent, c'est valable pour des tas de choses, pour toutes ces... Et c'est valable pour les manques aussi, et pour le manque d'amour aussi, c'est valable. Hein. Pierre, donc, a reconnu cela, et nous voyons qu'à ce moment-là, eh bien, la Pentecôte va arriver et va accomplir cette œuvre merveilleuse en Pierre et puis dans tous les autres. Et nous voyons combien Pierre va être transformé par la puissance de Dieu à ce moment-là. Amen. Amen. Et puis un autre indice encourageant aussi, c'est la question du disciple que Jésus aimait. Ah oui, ça aussi c'est quelque chose hein, dans l'évangile de Jean, par trois fois, chapitre 13 verset 23, chapitre 19 verset 26, chapitre 21 verset 20, il est question du disciple que Jésus aimait. Ça c'est quelque chose, on peut se poser des questions, parce que c'est l'apôtre Jean en fait. Hein. C'était lui le disciple que Jésus aimait. Et en écrivant l'évangile, il s'attribue ce titre-là à lui-même. Alors, bien des questions peuvent nous venir à l'esprit sur ce point. Est-ce que Jésus faisait des préférences? À quel titre? Sur quelle base? Jean revendique hautement ce titre pour lui-même. De quel droit? Est-ce que ce n'est pas de l'orgueil? Hein, donc, et vous savez, avant que Jésus ne meure, quand il était encore sur la terre, c'était une question qui avait vraiment de l'importance dans l'esprit des disciples. Hein. La preuve, c'est que quand la mère des fils de Zébédée est venue demander à Jésus, quand il établirait son règne, ses fils soient assis l'un à droite, l'autre à gauche de Jésus, déjà, c'est pas terrible comme façon de faire, mais voyez aussi les réactions des autres disciples, voyez leur indignation, voyez comme ils sont sensibles aux questions de préséance, aux questions de préférence, aux rivalités, comme ils font rapidement des comparaisons, comme ils seraient vite soupçonneux, vite jaloux, voyez-vous. Et c'est ça les choses qui faussent la compréhension, qui faussent la réception, qui faussent le don de l'amour. Mais béni soit Dieu, les choses ont changé. Et cette revendication de Jean, eh bien, elle n'a pas été discutée, hein. Elle a été acceptée donc par les autres disciples, etc. Et c'est d'ailleurs une des grandes preuves, c'est que l'évangile de Jean fait partie de ce qu'on appelle le canon du Nouveau Testament, et ça démontre que ce miracle d'amour s'est bel et bien produit en eux. Ils ont été débarrassés de toutes ces comparaisons, de tous ces obstacles humains si futiles. Quel encouragement donc pour chacun de nous. Amen. Et puis enfin, rappelons qu'il y a de merveilleuses conséquences, des suites admirables qui doivent nous encourager dans cette voie. Déjà, rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus disait à ses disciples au moment du lavement de pieds. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Vous êtes heureux à ce moment-là. Hein ? Genre, il cherche qui me fera voir le bonheur. Comment est-ce que je vais faire pour être heureux ? Ben tiens, voilà la recette, elle est là. Le Seigneur qui la donne. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Si vous les pratiquez, vous serez heureux, c'est sûr. Vous êtes heureux même. C'est même pas vous serez, c'est vous êtes, que dit le Seigneur. Hein. Et puis, une autre conséquence, ben, c'est la communion fraternelle vraie aussi. Hein. C'est ce qu'on a vu dans le verset 35 de notre même passage. Une autre conséquence, c'est d'être aimé du Père. On a lu ça aussi dans le chapitre 14 au verset 21. et au verset 23. Et être aimé de Christ aussi, qui se révèle dans les mêmes passages. Et puis, le chapitre 15, versets 14 et 15, nous dit que c'est la bonne façon pour que Dieu nous révèle sa volonté. On va lire cela encore. Chapitre 15, versets 14 et 15. Donc, sinon je vous ai lavé les... Attendez, pardon, c'est 13, je suis au chapitre 13, mais non, ça ne colle pas. Voilà. 15, versets 14 et 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Et c'est donc le bon moyen pour que le Seigneur nous fasse connaître la volonté de Dieu, la volonté du Père. Chapitre 17 ajoute encore que Dieu a mettre sa gloire sur ceux qui font ainsi. Et puis nous l'avons lu aussi, eh bien c'est le meilleur témoignage aux yeux du monde. Donc nous voyons très clairement les avantages considérables, les bénéfices considérables à nous attacher à ce passage et à sa compréhension, l'importance de ce commandement nouveau pour nous que nous donne le Seigneur. Donc, rappelons donc combien c'est aussi un commandement et que c'est, je dirais, quelque part le matériau précieux avec lequel s'édifie le royaume de Dieu, ici sur cette terre et là où Dieu nous place. Et puis, le Seigneur nous appelle à nous engager de tout cœur dans cette voie qui est exigeante, mais qui est nécessaire, et où nous pourrons progresser dans une pleine communion avec lui, en ayant, gardant les yeux fixés sur la rémunération, c'est-à-dire sur les conséquences merveilleuses que le Seigneur y attache. Béni soit son nom. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, et nous te bénissons, parce que toi qui es amour, tu nous as montré ce grand modèle, ce grand exemple, Seigneur. Et non seulement tu l'as montré, parce qu'il est tellement grand que nous pourrions être découragés, mais que tu nous fortifies et que tu nous encourages. Et que tu nous affirmes, tu nous proclames que tu vas nous soutenir, chacune et chacun, dans ce chemin d'amour et ce chemin d'obéissance. Merci Seigneur, nous voulons compter non seulement sur ton approbation, mais sur ce puissant soutien, sur cette aide jour par jour, pleinement suffisante et pleinement efficace. Merci notre Dieu, béni soit ton nom, et merci pour les belles et bonnes promesses que tu attaches à cela, et que tu veux aussi réaliser dans nos existences à chacun. Nous te remercions et te bénissons de tout cœur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons quelques annonces. Donc, la réunion de prière, c'est mercredi à 20h15. Les questions-réponses bibliques, c'est vendredi à 19h15. La réunion d'évangélisation, vendredi à 20h15. Et la distribution d'invitations dans les villages, rendez-vous ici pour 14h30 le samedi. Voilà. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie en lui. Alléluia.